Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver en ce lundi 12 mars pour cette 16e émission d'Oxyfoot, la seule radio qui vous parle de football amateur en Occitanie. Aujourd'hui, on retrouve l'équipe au complet avec le taulier de cette émission, celui qui a fait vivre Oxyfoot durant ces derniers mois et de façon brillante. Quentin Marais est avec nous ce soir. Salut Quentin.
Salut Romain, salut tout le monde.
Comme moi, il est de retour dans l'émission. Léo Molinier, comment ça va Léo ?
Salut Romain et salut tout le monde, ça va très bien et vous ?
Ça va très bien, je suis très heureux d'être là et d'être avec vous. Vous pouvez retrouver les podcasts de chaque émission sur footpi.fr et évidemment, les oranges sont représentées aujourd'hui par Xavier Belos. Salut Xavier.
Bonsoir Romain, enchanté que tu sois revenu de ton petit stage.
Hein. Et oui, voilà. Ah,
ça s'est bien passé dans la capitale.
Ça s'est très bien passé. Voilà.
Bon, impeccable.
Et je suis content d'être ici avec vous. Et aujourd'hui, notre invité a un rôle très important puisqu'il est arbitre. Il a accepté notre invitation et je suis très content qu'il soit avec nous aujourd'hui puisque vous le savez, ici, on donne la parole à tout le monde. Et il est intéressant d'entendre les arbitres que l'on entend si peu souvent dans les médias. Bienvenue dans Oxyfoot, Cédric Dutour.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Comment ça va ?
Très bien, merci.
Il vous tarde d'entraîner peut-être hein ?
D'entraîner,
d'arbitrer parce que
d'arbitrer,
avec cette période-là.
Oui, avec tous ces matchs reportés, mercredi soir le prochain.
Voilà. Bon, on va commencer cette émission directement avec Quentin et les résultats du week-end. Non, bon, il n'y a pas de virgule, c'est pas grave.
On démarre tout de suite.
On
démarre tout de suite avec Rodez qui est allé chercher un point à Lyon, la Duchère en National 1, un but partout. En National 2, Colomiers continue son superbe parcours en battant le Stade Bordelais 1-0, tandis que Tarbes est allé battre Mont-de-Marsan 2-0. En National 3, on a la victoire de Blagnac 2-0 contre la réserve du TFC, la victoire de Balma 1-0 sur Narbonne et Castanet de Cyril Garcia qui s'est incliné 5-0 contre Nîmes, contre la baie de Nîmes. Alors c'était un retour difficile sur le terrain, mais la cheville de notre premier invité a tenu bon et il nous a raconté son retour sur les terrains. On aura la réaction
un peu plus tard,
après, très bien. Alors on continue avec un dimanche spécial TFCOM, messieurs. Il n'y a pas eu seulement la rencontre entre les pros, l'Olympique de Marseille qui s'est imposé au Stadium 2-1, mais il y a eu les 19 et les 17. Les pitchouns du TFC ont assuré contre les Olympiens. Victoire 2-0 pour les U19 et 5-0 pour les U17. En féminine, Rodez et Bordeaux se sont tenus en échec également 2-2, tandis que Albi est allé battre Fleury 1-0. En futsal, mauvais week-end pour nos deux équipes toulousaines, Bruguière qui s'est imposé à domicile 4-1, incliné à domicile 4-1 contre Montpellier, tout comme l'UJS contre le Sporting, 4-1 également. En DH, nous avons la victoire de Lourdes 1-0 contre Giroud, celle de Muret à Pradine 1-0, celle de Luc Laprimob contre Revel 3-1, celle de Hoche à Florence 2-0 et surtout celle du TMFC 6-2 contre Aussonne avec un sextuplé pour Canon. On peut parler de très très grosse performance pour lui. Xavier, est-ce qu'il y a eu des échos sur Footpi de cette performance quand même assez colossale ?
Oui, bien sûr, on a fait une petite brève dessus parce que c'est pas tous les jours qu'on voit autant de buts dans un match.
Surtout qu'il a vraiment un parcours particulier.
Oui, et puis, c'est des joueurs.
Il joue en district il y a deux ans.
Ouais,
bon, il avait par le passé joué à plus haut niveau, mais.
Bien sûr. Non, mais c'est des joueurs, il y en a beaucoup comme ça, on le voit même chez les professionnels, hein, on l'a souvent dit ici, qui passent d'un petit niveau et puis qui arrivent à gravir les échelons rapidement. Lui, il est passé de district et puis il s'adapte facilement à la division d'honneur. Et marquer 6 buts, c'est pas anecdotique parce que ça prouve qu'on a vraiment des qualités de... On lâche rien pendant le match parce qu'il suffit qu'on en marque 2-3, on se dit bon c'est bon, je peux la jouer tranquille. Et puis il a persévéré, il en a mis 6 et il rentre dans l'histoire.
C'est fort. Quentin, c'était le retour sur le terrain de Cyril Garcia, le gardien de Castanet, que l'on avait reçu pour la première d'Oxyfoot et je crois qu'on a le son.
Exactement, retour difficile sur le terrain, on l'a dit, mais la cheville de notre premier invité a tenu bon et il nous a raconté son retour sur les terrains ce week-end.
Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que j'ai repris le chemin d'entraînement. Ça fait 3 semaines que je m'entraîne un petit peu avant le groupe individuellement pour retrouver un petit peu la souplesse de la cheville, retrouver un petit peu le physique. Ça fait 2 semaines que j'ai repris l'entraînement collectif et voilà, donc le staff a pris l'option de me titulariser. Moi j'avais une discussion avec avant le match, je me sentais prêt à jouer. Les sensations étaient bonnes sur le plan physique, quoi, j'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu de pépin, c'est bon signe.
Pour Cyril Garcia, on espère bien évidemment le maintien pour son équipe de Castanet et on termine cette rubrique résultat par la DHR en poule A. Grosse performance de Pibrac face à Semiac, 7-0. Victoire de Pamy à Fonsorbe, 5-1. Et de l'Union à Caser, 1-0. Et enfin, en poule B, Tournefeuille qui a battu Le Porté 3-1. La B de Colomiers qui est allée battre Caser 6-2. Et à noter notamment le report du match entre Montauban et Saint-Aurens. Voilà Romain.
Merci Quentin pour ce tour des pelouses hebdomadaires. On va maintenant se focaliser sur un match en particulier en partenariat avec Footpi. Avez-vous choisi ce week-end Xavier de suivre? Il me semble que Quentin vient d'en parler un tout petit peu, vient de donner
oui,
le score.
Oui, il vient de donner le score. Non, on a choisi justement, Walid, notre reporter, a choisi d'aller voir le match Tournefeuille-Porté, puisque c'était le duel au sommet dans cette poule de DHR qui est très serré. Donc entre Porté, entre Colomiers et entre Tournefeuille, puisque c'est les trois premières places donneront accès à la Régionale 1 l'année prochaine, avec peut-être le quatrième meilleur, je crois, des deux poules. Bref, bon, ce fut un match. Alors, bien sûr, ce match, il est parti sur tambour battant, puisque bon, j'ai eu Walid vite fait, on a vu son compte rendu, ceux qui veulent le voir sur Footpi. Mais c'était un match, alors au départ, qui devait être serré, parce que j'avais eu l'entraîneur Momo la veille, au téléphone, hein, voilà, et, qui est venu ici d'ailleurs. Et donc, oui. Ils s'entendaient un match serré, et puis, contre toute attente, en fait, ils ont eu beaucoup de réussite, Tournefeuille. C'était un match assez fini. Physique. Ils ont mené 3-0 et puis ensuite ils ont pris un but à la fin, 3-1. Ce match était engagé comme tous les derbies, Tournefeuille Porté ou Tournefeuille Fonsorbe des fois à l'époque. Donc c'est des derbies et voilà, peut-être on a la
justement on a, Xavier, la, réaction on a la réaction de Mohamed Bouamama, le coach de Tournefeuille, qui est satisfait du résultat de son équipe.
Globalement, je suis quand même assez satisfait. J'ai juste ce petit regret sur la fin de mi-temps, la fin de la première mi-temps où on a reculé. Malgré tout, je pense que cette équipe de Porté ira quand même au bout comme je l'avais annoncé, puisque ça reste quand même un potentiel fort du championnat. Nous, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Il reste quand même 8 matchs. On a vu qu'à l'extérieur, ce n'était pas toujours ça. On a vu qu'avant la trêve, on a fait quelques matchs nuls, donc voilà, il faut continuer à travailler, il ne faut pas que les garçons se montent un peu le cerveau. Voilà, il faut rester humble et on est, faut pas oublier qu'on est un amateur. Le plus important, c'est de continuer à travailler à l'entraînement et avoir ce côté humain avec cet état d'esprit collectif qui reste joyeux.
Xavier, donc, le coach qui est satisfait de son équipe.
Oui, forcément, il ne va pas dire le contraire.
Bon, il serait capable de dire le contraire.
Oui, bon, mais normalement, quand on gagne un match comme ça, aussi important, et 3-1, on est plutôt satisfait des joueurs et on ne va pas non plus se tirer une balle dans le pied en disant qu'on n'a pas fait une bonne partie. Normalement, le score reflète la partie, même si... ça a été accroché. Je sais que Porté a perdu un joueur, notamment en première mi-temps, je crois, un de leurs atouts offensifs. Donc peut-être que c'est un peu pour ça que ça laisse un peu des regrets justement à l'entraîneur. On a sa réaction, je crois.
Et voilà, justement, Xavier, Sébastien Massas, lui, est surtout déçu par le résultat et il est aussi énervé par certains comportements.
On savait que Tournefeuille avait des qualités, on va dire, sur des points forts au niveau du milieu de terrain, du joueur offensif, et puis sur les coups de pied arrêtés. Voilà, on savait que c'est une équipe qui est dans la lutte. Et je veux dire, c'était un point derrière nous avec leur match en retard s'ils le gagnent. Je veux dire, donc on n'a pas de problème. Après, moi, ce qui déçoit, et je pense qu'il déçoit le football surtout, c'est l'attitude générale, que ce soit dans l'agressivité. Je dis qu'il faut l'info au football. Il faut une agressivité, on va dire, responsable et sereine, quoi. Et c'est pas le cas.
Xavier ?
Oui, bon, y a la défaite, forcément. Déjà, c'est pas trop plaisant, surtout quand c'est des matchs importants comme ça. Surtout que Porté, en plus, fait une grosse saison. Il a perdu un joueur sur blessure. Je comprends aussi l'entraîneur, quand on perd un de ses meilleurs attaquants, on regarde à la fois le match, mais les matchs d'après. Et puis... aussi l'ambiance des derbies. Moi je connais très bien l'entraîneur de Tournefeuille. C'est vrai qu'il est un peu exubérant et chaud sur le bord, sans être méchant, etc. Et c'est vrai que on peut tout de suite subir la tentation de s'énerver un peu sur le bord. Mais apparemment ça s'est bien passé. Ça aurait pu m'a dit que ça aurait pu dégénérer un peu.
Oui, Sébastien Massia, surtout, voilà. Reproche un peu le comportement autour du terrain.
Pas spécialement des joueurs, parce que c'est de l'engagement, des blessures, il y en aura toujours. Après, moi, je ne crois pas au truc, c'est volontaire, ou des trucs comme ça. Il y a les arbitres d'ailleurs pour ça, pour voir si c'est volontaire et sanctionner les joueurs. Mais c'est surtout des fois dans les derbies un peu, et quand c'est en plus des matchs importants, que c'est le haut du classement, eh bien sur le bord, à la fois entre les dirigeants, les entraîneurs, les remplaçants, ça peut vite s'énerver. Et puis il n'y a pas le quatrième arbitre, là, c'est le délégué qui s'en occupe de ces histoires-là. Et souvent, bon, ils ne sont pas assez vifs pour séparer les deux entraîneurs. Mais il n'y a pas eu de problème, attention Arnaud.
Entre, oui, non, bien sûr.
C'était chaud, mais voilà.
Justement, Cédric, oui. Ce genre de match, alors Xavier parle de derby, mais de ces matchs importants, est-ce que ça s'arbitre différemment ou vous l'abordez de la même manière?
On a une grosse phase de préparation. Donc, sur chacun de nos matchs, on essaye de se préparer au mieux sur des histoires de classement, sur des historiques avec des clubs ou autres.
Vous regardez ça?
On le regarde. Ah oui, parce qu'il faut se préparer là-dessus. Mais après, ce qui se passe sur le carré vert reste sur le carré vert. Quoi. On ne va pas changer notre arbitrage. On va être un peu plus pédagogue peut-être sur certains joueurs à force de les connaître ou autres. Mais ça ne va rien changer là-dessus. Quoi.
Et alors, Xavier parlait tout à l'heure de joueurs qui, vous le disiez, que normalement, on ne fait pas exprès. Est-ce que vous le voyez dans le comportement qu'un joueur peut faire exprès de faire mal pendant un match ou,
On est là pour ça. Hein.
Vous le voyez, voilà, c'est ça.
On est là pour ça. On essaie de le déceler au mieux. Voilà. Donc, ce n'est pas facile parce qu'il y a des fois des gestes involontaires et ils sont vrais. Mais on est là pour ça, oui.
Merci, Xavier, pour cet éclairage sur ce match qui a été suivi par la rédaction de Footpi. Il est 19h17, les amis, et c'est l'heure de faire connaissance avec notre invité, Monsieur Dutour.
Bonsoir Cédric Dutour. Bonsoir. Vous allez bien?
Très bien, merci.
On va ensemble essayer de dresser votre portrait. Donc, vous avez 29 ans, vous êtes arbitre depuis environ 15 ans, si je ne me trompe pas. Autrement dit, vous êtes arbitre depuis à peu près la moitié de votre vie. C'est pas mal quand même.
C'est vrai, là j'ai déjà un bilan là-dessus. Oui, c'est vrai, ben c'est beaucoup d'investissement, mais c'est une passion, c'est comme vous, on compte pas les années, donc voilà, je continue à me faire plaisir chaque week-end sur les terrains.
Mais ce qu'il y a, c'est que vous ne vous êtes pas lancé immédiatement dans l'arbitrage, vous avez d'abord commencé à jouer quand vous aviez 9 ans. Oui. Donc comment on fait pour passer cette transition de joueur à arbitre?
Alors, c'est une bonne question. Enfin, aujourd'hui, sur chaque club, normalement, il y a des références pour des arbitres. Et j'invite justement chaque jeune joueur, ou moins jeune, parce qu'on a besoin d'arbitres aussi, d'aller justement vers ces référents qui leur expliqueront justement formation et comment devenir arbitre. Voilà.
Et donc, quand vous étiez joueur, vous disiez que vous étiez une personne plutôt nerveuse, pleine d'énergie. Est-ce que c'est la même chose maintenant que vous êtes arbitre, en tant qu'arbitre?
Alors, pleine d'énergie, oui, et je l'espère. Nerveuse, en tant qu'arbitre aujourd'hui, c'est un peu difficile de dire nerveux. J'avais 9 ans, hein, donc maintenant j'en ai 29, il y a un peu plus de
sagesse
aussi. Voilà. Mais non, c'est il y a eu du changement,
Et donc, selon vos dires aussi, vous étiez même pénible envers les arbitres quand vous étiez joueur.
Ouais.
Ça, c'est un comble.
Oui, ben c'est comme... justement, en fait, là aujourd'hui, si certains clubs entendent, il y a une chose moi, aujourd'hui que je trouve fascinante, c'est qu'il y a certains clubs, alors pour les citer par exemple comme le TFC, Colomiers, ouais, ou autre, lorsqu'il y a des suspensions, en fait, lorsque certains joueurs sont suspendus, alors il y a des faits de jeu, ça va de soi, mais il y a des faits contre l'arbitre, que ce soit des insultes ou autre. Colomiers, ça a commencé comme ça. Ça a été voilà, le temps que tu seras suspendu ou le temps que tu seras blessé, tu iras arbitrer des débutants, des poussins à l'époque pour les catégories inférieures. Donc justement, ça donnait un petit a priori, ça donnait un petit peu une expérience sur l'arbitrage. Mmh. Et c'est comme ça que je suis passé arbitre. C'est comme ça. Et
donc, Xavier, ce serait une excellente idée, ça, si les clubs allaient chercher les joueurs.
Ouais, je pense que les clubs. Ça c'est bien. Colomiers, parce qu'ils l'ont fait vraiment dans un cadre, peut-être ils ont dit ça à leur entraîneur, c'est dans l'éducation des sportifs quoi, aussi, hein, pour se rendre compte de la difficulté de l'arbitrage. Mais moi, je sais que j'ai aussi entraîné dans beaucoup de clubs amateurs, par exemple, bien ils font arbitrer lors des tournois, des joueurs, etc. Ils leur donnent le goût à l'arbitrage pour ceux qui voudraient ensuite se lancer là-dedans. Mais surtout, c'est que faut pas oublier qu'il y a une réglementation aussi. Chaque club est obligé maintenant de fournir des arbitres. Et donc, on est obligé de les préparer beaucoup plus tôt. C'est pour ça qu'on les lance à 13 ans, 14 ans, 15 ans, pour qu'ils suivent ce cursus.
Pour pouvoir...
C'est qu'ils font de plus en plus tôt.
Oui, c'est ça, c'est ce qui est excellent, c'est parce que ça démarre, la formation doit démarrer le plus tôt possible et par le biais de ces tournois, c'est ce qui est le plus pertinent pour ces jeunes arbitres.
En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes arbitres n'osent pas tenter l'arbitrage par la mauvaise image de l'arbitrage. Et moi, ce que je les incite justement à faire, c'est de tenter justement.
Cédric, hein.
On peut comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on représente l'autorité.
Et non, mais enfin, la mauvaise image de l'arbitre, elle existe, malheureusement.
Malheureusement, moi, elle existe parce que, justement, c'est des représentants des lois du jeu, donc c'est encore l'autorité. On associe souvent, et c'est ce qu'on dit, hein, l'arbitrage à la police.
L'armée. Ouais.
L'armée, enfin voilà. Mais non, c'est une passion. On est là pour le football. Donc c'est justement, et j'incite justement ces joueurs à tenter et arbitrer un match pour voir. Et à partir de là, justement, ils en tireront les conclusions. Ça me plaît ou ça me plaît pas.
Léo.
Donc vous avez été joueur, maintenant arbitre. Selon vous, est-ce que vous étiez meilleur joueur que vous êtes arbitre aujourd'hui ?
Compliqué là. Meilleur joueur, j'avais 9 ans.
Ouais.
Donc je m'attendais pas à une carrière.
Si vous n'avez pas de réponse, moi j'en ai une pour vous, c'est celle Dites-moi. D'Adrien Ferreira. Qui va arriver tout de suite, normalement. Ou dans quelques
arbitres, hein, parce que bon, même s'il a joué à Colomiers à un bon niveau, je pense que s'il avait continué en tant que joueur, même s'il était gardien, je pense qu'il aurait fini en district première ou deuxième division. Donc voilà, je pense qu'il a fait le bon choix de se diriger en arbitre et je pense qu'il a un grand avenir en tant qu'arbitre. Je pense qu'il peut aller très très loin. Je lui ai toujours dit, il a un très gros potentiel. Il a une bonne pédagogie avec les joueurs. Il sait parler, il sait prendre les bonnes décisions au bon moment. Il peut faire du grand bien à la Fédération française. Donc après, voilà, j'espère qu'il réussira et qu'on lui donnera sa chance. Voilà.
Plutôt d'accord ?
Plutôt flatteur.
Enfin, au début, il dit que vous n'êtes pas un grand joueur de foot quand même.
Oui, bon, ça il a raison parce qu'on de temps en temps, la semaine, on va jouer au ballon ensemble, mais donc c'est un peu plus difficile. Non, après, ouais, c'est flatteur. Maintenant, c'est du travail pour monter plus haut, donc voilà.
Et donc Jean-Arnaud vous a dit, tu vas tenter l'arbitrage et tu verras pourquoi c'est difficile d'arbitrer. Et là, c'est le déclic. Vous passez votre examen au district Haute-Garonne, Midi-Toulouse.
Exactement. Je dois beaucoup à Jean, qui était une ancienne personne licenciée à l'US Colomiers, coach à l'époque. Et c'est lui qui, justement, m'a poussé à devenir arbitre pour les diverses raisons que je viens de mentionner sur le fait de râler, d'être pleine énergie. Voilà, et puis peut-être que Colomiers avait besoin aussi à l'époque. Et voilà, c'est lui qui m'a mis un gros coup de pied aux fesses en me disant bah, « va tenter l'arbitrage » et c'est grâce à lui aujourd'hui que je m'éclate tous les week-ends.
Et donc moi, je voudrais savoir en fait comment ça se déroule ce passage d'examen. Est-ce que c'est quelque chose comme le bac qu'on révise ?
Alors, ça change assez souvent. Il faut se tourner vers les districts. À l'époque, c'était une formation tous les lundis ou mardis soirs de 2 heures pendant 2 mois. Maintenant, je crois qu'il y a des journées intensives, justement, où pendant 2-3 jours, on est en salle et une personne qu'on appelle le CTDA, conseiller technique départemental en arbitrage, vous forme justement sur les différentes lois du jeu. Parce que là aussi, c'est difficile. On se dit tous connaisseurs de football, on se dit tous anciens joueurs ou joueurs de football, mais beaucoup de lois sont encore inconnues dans notre entourage. Donc ça reste des journées intensives, mais après l'examen par rapport au bac, non, c'est vraiment, du moins pour le début, on a besoin d'arbitres aussi, donc c'est vraiment connaître le béaba de l'arbitrage, et puis petit à petit, quand vous allez monter, vous allez avoir des concours de plus en plus difficiles.
Justement, ça c'est un problème que beaucoup de joueurs, alors je parle de district, mais aussi en régional, ne connaissent pas les règles, même les plus simples. Alors, enfin, ils connaissent la règle du hors-jeu, la règle du but, mais encore la règle du hors-jeu, on en parlait tout à l'heure en off. Certains joueurs ne savent pas que sur un 6 mètres, il n'y a pas d'hors-jeu, par exemple. Est-ce que le fait que les joueurs ne connaissent pas la plupart des règles, finalement, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez que ça change, quoi ?
Alors déjà, c'est frustrant sur un terrain, parce que quand on vient contester, parce qu'on est amoureux du football et qu'on se dit « je suis pas d'accord avec vous, monsieur l'arbitre », et qu'il ne connaît pas les règles, nous, on peut pas s'arrêter 30 secondes pour lui expliquer la définition du hors-jeu. À chaque fois, c'est compliqué. Maintenant, il y a des initiatives aussi faites par la Ligue, par la CRA, Commission Régionale d'Arbitrage, où chaque année, en début de saison, ils convoquent justement dirigeants, qui convoquent également les capitaines, pour expliquer justement ces changements de règles, etc. Aujourd'hui, ça, malheureusement, on peut pas le faire à toutes les équipes. Et moi, j'invite justement les arbitres, et c'est ce qu'on fait par exemple avec l'US Colomiers, j'invite les arbitres justement à se rapprocher auprès de leur club, ou que les clubs justement contactent leurs arbitres aussi, pour se faire un bilan, ou pour dire en début de saison, voilà, quels sont les changements de règles, quelles sont les règles, et que justement qu'on part tous à frais avec la même base, quoi.
Léo.
Vous dites donc qu'être arbitre, c'est un challenge, et ça permet d'apprendre sur soi-même. La question c'est, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous ?
Plein de choses. L'organisation, déjà, premièrement, être organisé parce qu'on démarre seul. Hein, donc faut mettre une feuille de match en temps et en heure. Arriver en district à l'âge de 16-17 ans, il faut faire preuve quand même d'organisation. Du courage, de la gestion d'équipe, parce que plus on monte, plus on se retrouve à 3 avec des assistants, à 4 avec un délégué. Donc il y a aussi une gestion humaine, une gestion d'équipe derrière. La gestion de conflits, c'est notre fonds de commerce, hein, qu'elle soit envers nous ou qu'elle soit envers les clubs eux-mêmes. Donc je peux citer tellement de qualités aujourd'hui et je ne prétends pas avoir toutes ces qualités-là. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, l'arbitrage nous apprend ces choses-là. La timidité, par exemple, aussi. Le fait de communiquer avec vous ce soir, je pense que l'arbitrage est aussi pour quelque chose. Voilà.
D'accord. L'arbitre, ça doit être un homme de confiance, on est d'accord, Cédric ?
C'est ma phrase, oui.
Exactement, c'est ce que vous avez dit lors d'une interview à Footpi. Mais est-ce que vous êtes un homme de confiance, Cédric ?
Ah ben j'espère.
Est-ce que vous êtes sûr de ça ?
Ça sent le piège, ça, Léo. Hein.
Là, vous me sentez le piège. Oui, moi, je...
Ça sent la casserole.
Et est-ce que vous êtes sûr d'être un homme de confiance, donc ?
Oui, je suis sûr de ça. Il y a des choses sur lesquelles on peut douter. Moi, aujourd'hui, j'estime être un homme de confiance. Les joueurs s'entraînent plusieurs fois par semaine. On leur doit la vérité. Hein. Mmh. Donc, mais là, je vous vois avec un sourire, vous commencez à me faire peur.
Ouais. Parce que Adrien Ferreira n'a pas les mêmes propos que vous, on va l'écouter tout de suite.
D'accord.
En 2008, quand l'Espagne gagne le championnat d'Europe, je l'ai accompagné en fait, dans sa voiture pour célébrer le titre avec lui. On est allé jusqu'à Capitole. Et je lui avais, on avait discuté, on avait convenu que si un jour le Portugal gagnait un jour un titre, qu'il serait là aussi présent. Mais malheureusement, en 2016, comme vous le savez, le Portugal a gagné la Coupe d'Europe et il n'a pas répondu présent à mon invitation. Donc voilà, il a perdu le pari et bon, je trouve ça dommage. Donc je ne sais pas s'il a une explication à nous donner.
Alors, une explication ?
Alors, déjà, je n'étais pas arbitre à ce moment-là et j'ai complètement oublié de l'accompagner. J'ai oublié.
Donc ça n'a rien à voir avec la confiance, finalement.
Rien à voir avec la confiance. C'est pertinemment que je le raccompagne.
En 2014, dans une interview à Footpi, vous déclarez que le match Rodeo Castanet de 2013 était l'un des meilleurs matchs et meilleurs souvenirs pour vous. C'est toujours le cas aujourd'hui, et si c'est le cas, pourquoi ?
Alors c'est toujours, j'ai plein de souvenirs. Ce match-là en particulier, parce que j'avais tous les ingrédients, et c'est ce que j'avais dit à Footpi à l'époque, c'était un très gros match. On était sur une finale de DH, donc plein de spectateurs. Et puis, c'est une source aussi motivante pour nous. Hein.
Pour une montée en CFA2. Hein.
Pour une montée en CFA2, ouais, exactement. La famille était là, parce que c'est sur Toulouse. Donc, quand on se déplace à l'arbitrage, c'est bien quand il y a la famille qui est à côté. Les amis, un très bon match. On s'est régalé, pas d'incident aussi bien. Enfin, voilà. Enfin, c'est vraiment un très bon souvenir. Maintenant, aujourd'hui, j'en ai plein d'autres. Depuis cette date-là, j'ai eu la chance de tester justement la CFA et la CFA2. Donc, des souvenirs avec la CFA et on se rend compte voilà, que c'est d'autres niveaux. La Coupe de France également. J'aime beaucoup les matchs de Coupe de France. Quand voilà, c'est cette effervescence de Coupe de France aujourd'hui où le petit club, mais on va dire les grands. Quoi. Et c'est vraiment toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, je m'éclate là-dessus. Quoi.
Moi j'ai une question. On sait que quand on est joueur, il y a vraiment un fossé entre la DH et la CFA2. D'ailleurs, on le voit avec nos clubs qui montent en DH et qui ont du mal. Alors maintenant, c'est Régional 3 et Régional 3 et National 3.
Oui.
Régional 1, pardon, et National 3. Est-ce que dans l'arbitrage, il y a aussi ce fossé ? Ou est-ce que le gap se fait facilement ?
Alors nous, la différence des arbitres va plus se jouer entre le National 2. Parce que maintenant, les National 3, vous savez qu'ils sont couverts par des arbitres de Ligue, que par les arbitres de Ligue. Aujourd'hui, National 2, ça demande énormément d'investissement. Et j'estime en effet que des arbitres, alors non pas pour dénigrer les arbitres de Ligue, hein, beaucoup sont très très bons et n'ont pas envie ou n'ont pas eu la chance d'y accéder au niveau supérieur. Mais National 2 aujourd'hui, quand vous êtes arbitre National 2, c'est beaucoup plus d'investissement. Vous êtes quatrième arbitre de Ligue 2, donc vous commencez aussi à côtoyer le niveau professionnel. Là oui, il y a vraiment une grande différence au niveau des arbitres.
Il y a un changement de vie finalement à envisager, quoi.
Complètement, ouais.
Léo.
Et donc maintenant, aujourd'hui, c'est quoi vos objectifs ? Est-ce que vous souhaitez arbitrer à un niveau encore plus élevé ?
Bien sûr, si déjà avant tout, continuer à me faire plaisir chaque week-end, et ça c'est ce que je répète. Maintenant, j'ai déjà tenté à plusieurs reprises justement l'arbitrage au centre en National 2. C'est un concours qui est très difficile, c'est un concours qui demande énormément d'investissement. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Je ferme pas la porte, mais je prends les matchs, on va dire, les uns après les autres, plutôt qu'envisager une carrière en national.
Comme un joueur, en fait.
Comme un joueur, exactement.
Justement, pour un arbitre, l'important, ce n'est pas les trois points, du coup.
Ben c'est l'important, c'est de ne pas fausser le résultat et de se faire le plus discret possible.
Quentin.
Cédric, on entend souvent cette phrase qui dit « un arbitre qui compense, c'est un arbitre qui se trompe deux fois ». Quand vous faites une erreur, comment est-ce que vous appréhendez la suite du match? Parce que même là aussi, en lien avec ça, beaucoup de joueurs se focalisent sur leur première passe, leur premier geste, ce qui conditionne souvent la suite du match. Comment ça se passe psychologiquement? Parce que la dimension mentale, elle est quand même...
C'est énorme, surtout quand on est au début du match, quand on sait pertinemment, parce qu'on est des hommes aussi, on sait tout comme un joueur quand il rate une passe. Des fois, on se dit « Ah, est-ce que j'ai pris la bonne décision de ne pas siffler ou de siffler à la cinquième minute ?» Nous, on apprend de tirer un trait au plus vite, au niveau de l'estime de soi, de revenir sur un état serein et de continuer le match. Ces histoires de compensation ou autre... Forcément, on l'entend parler autour du terrain, on va dire, il a sifflé un pénalty à l'équipe A, il faut que ce soit pour l'équipe B. Mais je peux vous garantir que pour un arbitre, au contraire, le fait de se compenser, on ne s'en sort pas derrière. C'est impossible. C'est une deuxième erreur. C'est une deuxième erreur. Complètement.
En fait, moi, je pense que ce qui fausse, peut-être, disait tout à l'heure Cédric, de ne pas fausser les matchs, et ça, c'est le plus important. Ce qui peut fausser le match, surtout, c'est peut-être pas bon de siffler un péno s'il n'y était pas en début de match ou au milieu, etc. Parce qu'on peut toujours se rattraper, une équipe peut toujours se rattraper. Ce qui est fautif, des fois, c'est d'expulser, comme on a vu, des joueurs au bout de 5 minutes. Hein, alors que là, on a le temps de la réflexion, c'est pas instantané. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? On a le temps de voir ben, si c'est vraiment une agression ou pas, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est là, des fois, où il y a des arbitres, ils prennent la règle au mot, quoi, et ils sifflent, par exemple, un tacle, ça s'est vu en Ligue 1 ou même dans notre truc, hein, dans notre match, on siffle une faute directe, et là, le match, forcément, 10 contre 11 dès le début, au bout de 10 minutes, c'est faussé, alors qu'on a ce temps de pouvoir revenir ou de se calmer et peut-être pas de mettre en rouge. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça?
Ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé. Après, c'est une très très lourde sanction dès le début. On en a entièrement conscience et je peux vous garantir que c'est pas l'objectif de l'arbitrage. Maintenant, il y a deux types de fautes aujourd'hui, nous, en tant qu'arbitre. Il y a ce qu'on appelle des fautes des incontournables. Les incontournables, c'est quoi? Ça va être l'exemple le plus concret, le dernier défenseur. Première minute, dernière, 4-0, 5-0, enfin, quel que soit le score, le temps, on est obligé d'appliquer ces sanctions-là. Et c'est des sanctions où là, nous, en tant qu'arbitre, on doit aller très vite pour éviter justement de faire croire, attention, l'équipe adverse vous a parlé, on en parlait également, vous avez été, on va dire, déjugé, ou on vous a initié à mettre ce carton rouge ou autre. Deuxième type de faute, c'est ce qu'on appelle des fautes que nous, on peut manager. Ça va être, par exemple, un premier gros contact, alors qu'on est à la 7e minute, qu'il ne se passe rien. Eh bien, vous allez voir que des fois, certains arbitres vont appliquer directement le rappel à l'ordre. D'autres vont mettre un jaune parce qu'en termes de gestion de match, on est à 10 fautes en moins de 3 minutes. Il va falloir calmer un petit peu les joueurs. Donc voilà, ça, il faut faire attention. Et nous, en tant qu'arbitre, surtout dans ces 5 premières minutes-là, le but, c'est de cadrer justement les équipes. Parce que c'est notre rôle, et de sanctionner les incontournables.
Si j'ai bien compris, Cédric, il y a des règles, on ne peut pas appliquer de psychologie pour certaines fautes ou certaines situations.
Exactement.
Que ce soit à la 30e seconde de jeu, je me rappelle d'un gardien de Lorient en Ligue 1 qui avait pris un carton rouge dans la première minute, voilà, le compte, parce qu'il avait fait, je crois qu'il avait fait main en dehors de la surface. Faute en dehors de la surface. Là, clairement, on ne peut pas appliquer la psychologie que. Sinon, ça.
Le problème, c'est que
Xavier,
des fois,
vous pénalisez l'équipe
adverse. Il y a un truc, moi, qui. Bon, j'ai rien contre les arbitres, mais il y a un truc qui me fait.
Non, on s'exprime.
Il y a un truc qui me fait dégoupiller, c'est ces histoires de main dans la surface. Des fois, il y a main, même volontaire, enfin, ce qu'on dit volontaire ou pas. Et puis, on excuse. Moi, je me souviens, par exemple, de la faute de Barthez en finale où il prend, je crois qu'il prend rouge direct, comme ça. Ouais, voilà. Alors, on ne sait pas pourquoi, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a. Rentre dans la ligne de mire, en fait, l'appréciation de l'arbitre de sortir un rouge ou de ne pas le sortir. Alors, je suis d'accord, quand le gars s'amasse seul, il est fauché, il y a pénalty rouge, gardien. Mais des fois, ce n'est pas tout le temps appliqué. Alors, est-ce que quand les arbitres, justement, vous disiez, quand les arbitres, ils ne sanctionnent pas ça, parce qu'on le voit même une main dans la surface, des fois, il y a des arbitres, ils mettent jaune, et des fois, ils ne mettent pas jaune. On ne comprend plus le on comprend plus comment dire, la ligne directrice de l'arbitrage. Vous voyez ?
Alors, pour moi, il y a deux sujets. Il y a deux sujets. Les incontournables sont les incontournables. Aujourd'hui, une main n'est pas un incontournable. Sauf une main sur la ligne, forcément, qui évite un but, etc.
Comme le Portugal en 2000.
Voilà. J'ai vu que le Portugal est un sujet sensible. Mais non, pour revenir là-dessus, les incontournables, pour nous, c'est quoi ? Ça va être dernier défenseur. Ça va être un tacle au niveau des genoux. J'exagère pour qu'on puisse comprendre. Ces choses-là, nous, ce qui est primordial, c'est d'être cohérent. Cohérent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, Cédric Dutour, qui va arbitrer samedi à Tarbes, il faut que je fasse la même chose que le collègue la semaine dernière. Parce que sinon, derrière, ça va mettre poser polémique. On va se dire justement qu'il y a un problème de cohérence envers les arbitres. Le reste, la main, et je crois qu'on va en parler, c'est sujet polémique.
Justement, c'est sujet polémique. C'est vrai que moi, je voulais juste savoir ce que l'on vous dit, en fait, pour l'application de la règle, parce que je pense que c'est l'un des faits de jeu sur lesquels il y a le plus de divergences dans le choix des arbitres. Donc, pour savoir tout simplement ce qu'on vous dit, parce qu'on parle souvent de main volontaire, pas volontaire, mais qu'est-ce qu'on vous dit clairement à vous ?
C'est intéressant justement que les joueurs le sachent, ça. C'est très intéressant.
Alors, première chose au niveau des mains, c'est polémique. Même nous, en tant qu'arbitre, lorsqu'on se retrouve sur des rassemblements, par exemple, on travaille sur des sujets vidéo et même nous, des fois, on n'est pas d'accord sur ce système de main. Donc, autant se le dire. La main, il y a une règle qui est très claire. Aujourd'hui, votre main a-t-elle une position naturelle ou pas ? Lorsqu'on vous tire dessus, par exemple, est-ce que vous avez une position naturelle ? Si vous étendez vos mains et que justement, pour agrandir votre surface et contrer le ballon, pour nous, les mains, aujourd'hui, celle-ci doit être sifflée. Et il y a d'autres critères qui restent en compte. Ça va être le mouvement de la main, ça va être la distance. Un joueur qui frappe à 1 mètre d'un autre joueur, même s'il écarte un petit peu, c'est compliqué qu'il ait le temps d'enlever sa main. Donc il y a tellement de critères aujourd'hui que forcément, nous, ce qui nous intéresse en tant qu'arbitre, ça va être 10e minute, j'ai une action dans la surface de réparation où je fais le choix de ne pas siffler cette main-là. Il faut que je sois cohérent et que je fasse la même chose à la 70e. C'est ça le plus important. Si on doit retenir quelque chose, c'est ai-je une position naturelle ? Si j'ai une position naturelle, la main ne doit pas être sifflée.
Voilà, parce que si la question m'est venue à l'esprit, c'est parce que je ne sais pas si vous avez vu les images pour le coup, mais on a eu une scène en Europa League où on a vu Adil Rami vraiment faire, enfin du moins montrer à l'arbitre qui faisait le geste de faire en sorte que sa main soit collée au corps. Au final, ça a quand même donné lieu à un pénalty. Donc c'est pour ça que c'est assez, cette divergence dans la prise de décision qui est quand même assez...
D'après ce que dit Cédric, c'est beaucoup dans l'appréciation, quoi. En fait, dans l'interprétation.
Dans l'interprétation.
Moi, je trouve que ça, c'est une règle trop compliquée. Avant, des fois, c'est comme dans le permis de conduire. On rajoute des trucs, en fait, c'est encore plus compliqué, alors qu'on pourrait faire simple comme c'était avant. C'est-à-dire, si par exemple, on dit, y a main, que ce soit volontaire, pas volontaire, collé ou pas collé, on siffle péno. On arrête tout.
Je peux
tout débat.
Que ça serait plus simple pour nous.
Mais, voilà. Non, mais on arrête tout débat sur cette histoire-là.
Plus de pénalty,
parce que
on en parlait tout à l'heure.
Voilà, parce que moi, l'histoire d'agrandir sa surface, c'est pour moi, quand on est joueur de foot, c'est de la fumisterie. Parce que quand quelqu'un y tacle, les bras, ça sert d'équilibre. On ne peut pas tacler les mains collées au truc, sinon on ne défend plus.
D'où je parle de position naturelle. En taclant, c'est compliqué de siffler une main là-dessus.
Et donc, ça, c'est vraiment. Et moi, je pense que pour éliminer tous ces problèmes-là, on revient à la règle simple, il y a main dans la surface, c'est péno, volontaire ou pas, on arrête tout débat. Et puis les gars, ensuite, les joueurs, eh bien, ils le savent. Donc, automatiquement, ils vont essayer de pas. Parce que là, ils jouent sur la règle, ils se disent, ouais, peut-être il ne va pas siffler.
Oui, donc en fait, c'est les joueurs qui sont fautifs, c'est pas forcément l'arbitre.
Pas les joueurs, parce que les joueurs, bon, si on vous tape dans la main, on vous tape dans la main. Vous pouvez, si on centre et puis le ballon il arrive dans la main, on n'a pas le temps de le. Mais si on sait qu'il y a péno de toute manière, et que ce soit de volontaire ou pas, et qu'on siffle péno, il n'y a pas de souci. Sauf que là, les joueurs, ils se disent, bon, je vais le tenter quand même, parce que peut-être, un, l'arbitre ne va pas le voir, deux, peut-être il va penser que j'agrandis pas ma surface, donc ben, peut-être il va pas siffler. Alors que si on siffle directement dès qu'il y a une main dans la surface, c'est ce que disait d'ailleurs Corbis un peu sur ça, il dit ben, quand il y a main dans la surface, c'est péno, et puis c'est tout, ça s'arrête là, on arrête les débats, on ne discute plus de savoir s'il a taclé, il a fait esprit, même dans un mur, des fois il y a des arbitres, ils ont sifflé péno, alors que le gars il était comme ça.
Et oui, sauf que si, ben, si vous le protégez devant le micro, on vous entend plus, Xavier.
Ah, pardon.
Parce qu'il y a ce critère, juste de distance.
Tu fais le geste en même temps.
Il y a ce critère de distance aujourd'hui. Si vous tirez une frappe à 20 mètres, aujourd'hui on estime que le défenseur a largement le temps d'enlever ses mains. C'est différent d'une frappe à 1 mètre.
Tout à fait.
Voilà. Donc il y a tellement de critères aujourd'hui. Et comme je dis, nous, le but premier, c'est d'être cohérent. Donc on travaille là-dessus.
Mais à 20 mètres, normalement, il n'y a jamais de péno à 20 mètres.
On va reprendre
une frappe de 20 mètres.
Ouais, une frappe de 20 mètres, quand même.
Il a le temps
là, de faire arriver. Là, s'il met la main, c'est rouge.
Léo, on va reprendre le fil de l'interview.
Donc la main qui est polémique cette semaine, hein, n'est-ce pas Quentin, avec le match de Marseille notamment et Rami. Il y a un autre match aussi qui nous paraît intéressant d'avoir votre avis dessus, c'est Paris Saint-Germain-Real. Oui. Comment est-ce que vous auriez arbitré ce match? Peut-être le cas Verratti, il y a quelque chose à dire.
Alors, à préparer ce match de Champions League, moi aujourd'hui, j'ai pas la prétention de me dire comment. Ouais, je suis pas prêt. C'est des mecs de haut niveau et ils sont formés, ils sont très forts. Mais et je trouve que le match d'ailleurs a été très très bien arbitré. Le cas de Verratti, pour moi, je peux vous garantir qu'il fait un bien fou au football amateur.
Pour quelle raison?
Parce que des contestations comme ça aujourd'hui sur le terrain, malheureusement, on peut en avoir. Et nous, la difficulté, ben voilà, on sort un peu de l'école, quoi. C'est-à-dire qu'on apprend les règles. Aujourd'hui, parler à un arbitre à moins d'un mètre ou faire 10 mètres en courant pour contester, moi, je ne fais pas ça dans la rue aujourd'hui. Donc, on reste des hommes. Et aujourd'hui, qu'on se trompe ou pas, on a la porte ouverte justement au dialogue et à discuter avec les joueurs, mais pas dans des situations de crise comme celle-ci, quoi. On ne vient pas intercepter un arbitre en faisant 10 mètres en courant et en levant les bras. Et donc, je peux vous garantir que ce qu'a fait cet arbitre-là, ça nous fait du bien parce que nous, c'est ce qu'on applique et c'est ce qu'on cherche à appliquer justement sur les terrains régionaux. Et donc, du coup, ça va être compris de tous.
Et quand on voit au rugby les piliers de 2 mètres qui baissent la tête face aux arbitres, ça doit vous donner envie aussi, un peu en quelque sorte.
Oui, ben oui, c'est une autre mentalité, le rugby. Aujourd'hui, le rugby.
Vous pensez que l'expérience avait été faite en finale de Coupe nationale, qu'un micro au niveau des arbitres pour qu'on entende vraiment ce qu'ils se disent? Est-ce que ça peut être une bonne chose?
Moi, ça peut être une bonne chose, mais ça va être une bonne chose pour qui? Ça va être une bonne chose pour nous en tant que téléspectateurs.
Pour les joueurs qui seront tentés de moins insulter déjà, peut-être, parce que je pense qu'il y a quand même des injures assez que les arbitres font peut-être semblant de ne pas entendre, pour éviter justement de sortir les cartons.
Oui, je ne vais pas vous le cacher, certaines petites insultes. Ou alors, parce qu'après, il faut différencier aussi la personne qui est totalement frustrée par son match et qui nous insulte par colère et qui va venir s'excuser de suite après. Moi, ces gens-là, je ne leur en veux pas. Par contre, un cas comme M. Verratti, pour venir dessus, et qui s'y vient et qu'on l'insulte et qui passe au micro, là, dans ce cas-là, oui. Et ça va nous donner du poids pour les commissions, après, en plus, donc, bien sûr.
Et justement, le 25 février dernier, il y a l'arbitre Yacine Sali, qui arbitrait un match de district en Essonne, qui a été agressé par un joueur. Et depuis le début de l'année, c'est la 19e agression, soit le double par rapport à l'an dernier. Alors, ces faits, ils sont surtout recensés en Île-de-France. Mais est-ce que ce genre de cas arrive aussi dans notre région? Et si c'est le cas, comment vous faites pour gérer ces situations? Est-ce que vous avez des règles, suivi des formations? Comment est-ce que ça se passe?
Alors,
suivi des formations, est-ce qu'on vous frappe lors d'une formation? Non, j'essaie de détendre un peu.
Ouais, on en rigole, mais c'est vrai que
c'est un sujet pour très intéressant.
C'est pour moi déjà, à mon goût, et au goût de tous les arbitres, ça arrive encore beaucoup trop souvent. Rien ne justifie aujourd'hui de frapper un arbitre parce qu'aujourd'hui on frappe pas simplement en fait. On peut être en désaccord pour quoi que ce soit, on peut être des amoureux de foot, on peut être des passionnés, mais c'est pas une raison pour frapper l'arbitre. Aujourd'hui, vous pouvez tomber sur l'arbitre qui a fait le plus mauvais match de la planète, hors de question de le taper. Donc nous ça nous impacte ces choses-là parce que bon c'est des collègues, on se dit que ça peut arriver à tout le monde, on voit maintenant que ça arrive à tous les niveaux, c'est arrivé dernièrement à un match de Gambardella, donc de niveau national, chez les jeunes, c'est pas seulement les petits clubs de district comme j'ai pu entendre, non c'est tous les niveaux. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est frapper fort là-dessus. Et donc, on est aidé, nous, par des associations, pour les citer, comme l'UNAF et la FAF, qui sont des associations d'aide pour les arbitres, justement, d'aide aux victimes. Maintenant, il faut sévir très, très rapidement sur ce genre de situation, à mon goût.
Vous savez, maintenant, même les joueurs se font taper dessus, remarque.
Oui, oui, oui.
Par les arbitres, c'est ça, Léo?
Mais pas par les arbitres. Arbitres.
Non,
faux. Pas par les arbitres.
Ça s'est vu. Hein.
J'ai voulu rebondir dessus.
Ça s'est vu, mais...
Et du coup, est-ce que...
Mais non, mais par contre, on sait que Tony Chaperon fait des bons tacles par derrière.
Ouais, voilà. Pas non plus,
C'est pour lui.
Non, mais là, c'est autre chose aussi. On rigole, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est plus dur d'être arbitre qu'il y a quelques années?
Sur l'effet du haut niveau, avec l'aspect médiatique, l'aspect, on va dire, monnaie derrière ou autre, je peux pas vous dire. Je le côtoie pas. Football amateur, moi, je tire énormément de respect aujourd'hui aux jeunes arbitres. Parce que en tant qu'arbitre senior, on va voir nous aussi des matchs de U19, U17 ou autre. Et ce qui me fait peur, à moi, c'est pas ce qui se passe sur le terrain, mais c'est plutôt à l'extérieur du terrain. Quand je vois certains parents, à la 7e minute, mettre une pression monstre à un arbitre de 16 ans pour mettre un carton alors que c'est son deuxième match, parce qu'il débute, de dire à certains parents, à leur fils, n'hésite pas à lui en face à me lui casser les jambes, moi, c'est des choses, ça me fait peur. Hein. Mm-hmm. C'est là où j'estime qu'aujourd'hui, quand j'ai démarré, moi, comme vous avez dit, il y a 15 ans, j'ai pas eu ces discours-là mm-hmm. autour du terrain. Et ça me fait peur.
Donc en 15 ans, vous avez eu une certaine évolution.
Xavier.
Ouais, pour revenir juste à Léo sur ce que vient de dire Cédric, c'est-à-dire que là, c'est un problème comment dire, d'encadrement et d'entraîneur, parce que les parents sont à l'image de l'entraîneur, en fait, de l'équipe. Et si les parents, ils vocifèrent autour de l'arbitre, tout ça, c'est parce que l'entraîneur n'a pas le monopole d'éducateur, aussi bien pour les enfants que pour les parents autour. Normalement, un bon éducateur, il gère aussi bien les enfants que les parents à côté. Et c'est pour ça que quand il y a des bons éducateurs, ben normalement, ils ont le monopole sur leur groupe, mais aussi sur les parents. L'éducateur doit aussi éduquer les parents, parce que ce n'est pas faire du bien aux enfants qu'un parent ben, il crie sur l'arbitre ou il crie sur un adversaire, parce qu'il n'y a pas que sur les arbitres aussi, il y a sur les adversaires. Donc, voilà. Ouais, ouais.
Et donc, je vais vous poser une question un petit peu plus globale sur l'arbitrage, l'assistance vidéo.
Oui.
Plutôt pour, plutôt contre. Est-ce que, pour vous, ça serait plus confortable d'arbitrer avec l'assistance vidéo ?
Ben plutôt pour. Je vais pas... Aujourd'hui, on apporte un outil supplémentaire à l'arbitrage qui va nous permettre, alors faire moins d'erreurs ou pas, mais justement de ne pas fausser le résultat. Mmh. On avait parlé il y a quelque temps de l'arbitrage vidéo, où je trouvais que la difficulté, c'était la mise en place de l'arbitrage vidéo. Aujourd'hui, la Fédération française de football s'est portée justement... en tant que testeur justement de l'arbitrage vidéo, notamment cette année au niveau de la Coupe de la Ligue. Et on peut voir que c'est des choses qui fonctionnent énormément. Le but était surtout de cibler dans quelle situation je vais pouvoir utiliser l'arbitrage vidéo, faire en sorte qu'il n'y ait pas 50 actions à stopper, à chaque fois à contester l'arbitre, etc. Aujourd'hui, il existe plusieurs actions. Pour les citer, ça va être but marqué ou non, avec des histoires d'enjeux. Ça peut être, par exemple, l'attribution d'un carton rouge direct. On parle tout à l'heure de la 5e minute avec une décision très importante. Ben, est-ce que ça ne vaut pas le coup de demander justement l'arbitrage vidéo à ce moment-là ? Toutes ces choses-là vont donner de la crédibilité et justement va réduire un petit peu cette pression et va donner un peu plus confiance à l'arbitre. Donc moi, bien sûr, on est pour.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Je sais bien, mais ça, c'est un autre débat.
Quand on regarde depuis tout à l'heure, je pense qu'il n'est pas d'accord non plus.
C'est un autre débat.
Je suis pour et dans des dispositions bien définies.
On en débattra un autre jour.
On fera une émission.
Le débat sera long, ça je vous le garantis.
Après la Coupe du Monde.
Après la Coupe du Monde, voilà. Du coup, je suis pas sûr que vous serez encore pour la vidéo. Léo.
La dernière question, l'arbitrage à 5, vous en pensez quoi ?
C'est une bonne chose aussi. L'arbitrage à 5, c'était un amont justement de l'arbitrage vidéo. C'était surtout pour les surfaces de réparation parce qu'on voit notamment au niveau des corners, ces choses-là, que voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de choses litigieuses. Mais non, petit à petit, je pense que l'arbitrage à 5 va disparaître. Enfin, si on intègre justement l'arbitrage vidéo, on n'a plus forcément des crédibilités à rajouter l'arbitrage à 5 derrière. Ce n'est que mon avis d'amateur.
Le problème, c'est qu'à 5, l'arbitre de surface n'a plus droit à l'erreur. Parce que justement, s'il se trompe, on va lui tomber dessus du fait « mais t'as que ça à faire, tu ne peux pas le voir ».
On en revient au même truc, c'est l'œil humain. c'est l'œil humain.
Donc, la vidéo, ça sera aussi l'interprétation, Xavier, la vidéo.
Oui, mais avec des ralentis.
Non, normalement... j'aurais pas dû revenir sur la vidéo.
Oui, oui, non. Pardon. Avec des ralentis. Mais ce que je veux dire, c'est que le 5 arbitres, en fait, c'est 5 fois l'œil humain qui va arbitrer à l'instant T, quoi. Même l'arbitre de surface qui est derrière. Nous, il nous faut déjà 4 ralentis pour voir si vraiment il a touché ou pas. Alors imaginez l'arbitre de surface.
Voilà pour mon interview. Merci Cédric Dutour d'avoir répondu à mes questions.
Eh bien, merci pour l'invitation.
Mais c'est pas fini. Tout de suite, c'est l'interview tac au tac de Quentin.
Allez Cédric, ce sera beaucoup plus léger si je vous demande Barça ou Real.
Real.
OM ou PSG.
OM.
Bayern ou Dortmund.
Dortmund.
Pierluigi Collina, c'était le meilleur.
Oui.
Stéphane Lannoy ou Clément Turpin.
Ah, deux styles d'arbitrage totalement différents. Il faut que je donne une réponse.
Oui.
Turpin qui est l'actuel leader.
Andrés Iniesta ou Andrea Pirlo.
Pirlo.
Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.
Ronaldo.
Gianluigi Buffon ou Iker Casillas.
Casillas.
Pep Guardiola ou José Mourinho.
José Mourinho pour le personnage.
Didier Deschamps ou Zinedine Zidane.
Très bonne question aussi. Zidane.
Rugby ou hand.
Rugby.
Tennis ou basket.
Tennis.
Roger Federer ou Rafa Nadal.
Nadal.
Pain au chocolat ou chocolatine.
La chocolatine, on est dans le sud.
Thé ou café.
Café.
Whisky ou vodka.
Vodka.
Italie ou Espagne.
Espagne.
États-Unis ou Australie.
États-Unis.
Cédric Dutour arbitre en Ligue 1, possible ou pas.
Compliqué.
Et la France, cette Coupe du Monde, elle peut la gagner.
Bien sûr qu'elle va la gagner.
Merci beaucoup.
Et l'Espagne.
Un second.
Attends, une finale France.
France-Espagne pour la finale.
Ce serait très 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 beau.
Et, vous serez
et je là, répondrai là, pas à cette question.
C'est vrai que je pense. Messieurs, il est 19h51 et c'est l'heure du quiz. Et c'est la musique de fond directement, pas de jingle, c'est pas grave. Et je vous rappelle les règles rapidement, messieurs, 10 questions, 1 point par bonne réponse. Et ce soir, nous allons jouer en équipe. Xavier va jouer avec notre invité Cédric et Quentin fera équipe avec Léo. Pour répondre, il suffit de me donner votre prénom pour prendre la main. C'est clair pour tout le monde. On veut répondre.
Très bien.
Ouais, très clair. Bon,
j'ai attendu ça depuis très longtemps.
Ouais, voilà. La petite musique qui fait plaisir. Alors ma première question, elle va être simple. Si je vous dis que c'est une première depuis 1964. Alors, si vous me trouvez la réponse là direct, c'est fort.
Je pense qu'il va falloir des indices.
Bon, ouais. C'est d'un bon.
C'est du foot.
C'est du foot. C'est pas ça. Merci, parce que là, sinon, on est mort.
C'est en Ligue 1.
Parce que la question est vaste, quand même.
Ce n'est pas en Ligue 1.
C'est pas en Ligue 1, c'est en Espagne.
C'est pas en Espagne.
Première Ligue.
C'est aux Pays-Bas.
Ah, c'est aux Pays-Bas. C'est aux Pays-Bas. Ah, oui. Pays-Bas.
Ça s'est passé sur le terrain.
Ça s'est passé sur le terrain. Première depuis 1964.
Là, 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 là. Ça concerne l'Ajax.
Non.
Quentin, non. Est-ce que c'est pas un record de précocité dans l'acquisition du titre de champion.
Non. Mais je pense que vous parlez du bon club.
C'est le PSV.
C'est le PSV. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Attention, parce que je peux donner des caviars aussi. Donc
qu'est-ce qui s'est passé avec le PSV qui n'était pas arrivé depuis 1964?
Un but marqué en un temps record? Non.
Ils n'ont pas marqué de but là pour le coup.
Ils ont fait le doublé.
Bon, pas au mois de mars là, ce serait rapide. Quand même.
Presque. Oui. Une exclusion en temps record? On est sur arbitrage. Non.
Ouais, ça aurait pu, mais non. Alors malgré cette défaite, le PSV reste en tête.
Ah bah ils étaient invaincus. C'est la première fois qu'il y a eu une si longue période d'invincibilité, non?
Non.
Ah non, il n'y a que le Barça qui a
vaincu. Peut-être pas alors.
Non, on dirait pas. Qu'ils ont fait jouer un joueur jeune.
Vous avez pas vu le résultat du PSV ce week-end?
Non, pas du tout. Championnat Pays-Bas.
L'Eurodivisie, c'est intéressant, c'est très offensif. Et justement, c'est tellement offensif, donc personne ne va marquer de pointe.
Non.
Que c'est le PSV s'est incliné 5-0 sur le terrain de Willem II. Qui est pourtant classé en bas de classement. Et donc, c'est la première fois depuis 1964 que le PSV perd par 5 buts d'écart à l'extérieur. Et sachez, c'est une petite info que je vous glisse comme ça, que c'est le club de l'ancien parisien Ogbeche, Willem II.
Ah oui.
Vous vous rappelez d'Ogbeche?
Ouais. Il joue encore, lui?
Il joue en Eredivisie à Willem II, mais il n'est pas rentré dans ce match-là.
D'accord.
L'équipe Léo Quentin, 0.
Bon, 0-0.
Xavier Cédric.
On est égalité, donc c'est bon.
Exactement. Mmh. Alors, une autre question, la deuxième. Comment le Croate Carlo Letica s'est fait remarquer ce week-end?
Oh, putain. Lui, il va aller
vous l'avez vu.
Là, je commence à comprendre votre frustration. Je commence à comprendre, là.
Vous l'avez vu, monsieur.
Ça me dit quelque chose, là, cette histoire-là.
C'est un gardien.
il a marqué. C'est un gardien.
Oui, Quentin, il n'a pas fait un arrêt réflexe fabuleux.
C'est le... Ah non, non, non.
Je me rappelle les règles.
Ah oui, non, ça c'est un gars. Oui, c'est au.
Faut un prénom.
Xavier, c'est au Mexique. C'est au Mexique, l'arrêt du gardien, là. Un arrêt réflexe, c'est pas lui.
Je l'ai vu, mais j'ai pas cliqué sur le lien.
Alors, c'est un gardien qui est suivi par le Real. Il a fait la une de Marca, là, il y a très peu de temps. C'est pour ça que, du coup, ce qu'il a fait ce week-end, on l'a remarqué.
Ah, Quentin, il a pas arrêté plusieurs pénaltys, au moins?
Non.
Non, il a marqué un but. Xavier, il a marqué un but?
Il a marqué un but.
Je l'ai dit.
T'as pas dit
en tant qu'arbitre,
je l'ai dit.
Il y a des règles.
Alors,
moi, je n'ai pas dit.
On a un arbitre.
On donne son prénom.
Oui.
Léo.
Non.
C'est les règles.
Il y a des règles.
Je ne fais pas de psychologie, Cédric.
Ah non, non, mais
c'est des règles.
Les règles sont strictes.
C'est des règles. Comment vous appelez ça, les règles?
Incontournables. Ça fait
incontournable. Incontournable. Léo, je l'applique. 1-0 pour l'équipe de Xavier et Cédric. Troisième question, messieurs. On parle de buts, donc on va continuer sur les buts. Savez-vous quel est le meilleur buteur en championnat en Europe de son championnat? Quel est le meilleur buteur d'Europe?
Léo? Neymar?
Ah non.
Quentin?
Ah non.
Harry Kane?
Non.
Non plus.
Alors Harry Kane est juste derrière.
Xavier Messi?
Non.
Non.
Léo Thauvin?
Non, pas Thauvin.
C'est pas en France. Il joue dans quel championnat?
C'est un Brésilien. C'est pas le championnat brésilien parce qu'on parle d'Europe, mais c'est un Brésilien.
C'est au Portugal?
C'est au Portugal. Bien Xavier. Vu, Xavier.
Ah, désolé, je vais pas vous aider là.
un Brésilien au Portugal.
Benfica ou Porto, j'imagine?
C'est Benfica. Il a marqué 30 buts en championnat.
Ah, Quentin, c'est pas Jonas?
Wagner.
Quentin, c'est Jonas. Égalisation
inconnu.
De Quentin, inconnu, mais alors parce que tu ne suis pas.
Oui,
tu
non.
Vous ne suivez pas, pardon, Xavier.
Si, je le suis championnat, le championnat portugais, mais Jonas. Bon.
Alors, c'est lui qui a marqué le plus de buts cette saison en championnat, toute compétition confondue. Par contre, c'est Harry Kane qui a scoré le plus de fois avec 35 buts. Égalisation.
Il
donc,
a combien, Jonas?
30 en championnat.
Ah,
toute compétition confondue, c'est Harry Kane. Question suivante, messieurs, quel est le meilleur buteur français en Europe?
Quentin, Florian Thauvin?
Absolument pas.
Absolument pas.
Il n'est même pas sur le podium, Thauvin.
Le meilleur buteur français, ben c'est Griezmann.
Non, on donne son prénom, Xavier, ah, mais ce n'est pas Griezmann. Ah. Ce n'est pas Griezmann. Il a marqué 27 buts, toutes compétitions confondues. Le joueur que l'on cherche.
Toutes compétitions confondues, un français.
Eh oui,
c'est mieux. Xavier Giroud?
Non, ce n'est pas Xavier Giroud.
Quentin,
c'est dans le championnat de France.
Kylian Mbappé?
Ce n'est pas Kylian Mbappé. Non, et non. Pour répondre à la question de Xavier, ce n'est pas dans le championnat de France. Il est passé par le championnat de France. Il a 32 ans.
Oui. Xavier Ribéry?
Non, mais Ribéry, 34. Il n'a pas marqué. Et
il a marqué ce week-end. Non, mais oui, je sais pas, on ne sait jamais. Il en a mis. Il a mis.
Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, je vais vous donner un indice et ça ans. Va partir. Il joue à Galatasaray.
Quentin.
Xavier Gomis.
Bah, fait Timbi Gomis.
Je vous l'ai dit qu'il fallait être rapide. Bien joué, Quentin.
Non, moi, j'ai dit Xavier Gomis.
Et non, il a dit Quentin.
Oui, il a dit Quentin.
Et oui, mais
c'est de votre temps de quadrupler en une mi-temps.
L'arbitrage vidéo. Là, il peut,
l'arbitrage vidéo.
Le prénom est dit en premier par Quentin. Il ne faut pas donner la réponse avant que je vous donne la parole, messieurs. D'accord. Donc, 2 points pour l'équipe de Quentin et Léo. 1 point pour Xavier et Cédric. Alors, on parle beaucoup, justement, de Florent Thauvin en ce moment. Et avec ses performances, beaucoup le voient jouer le mondial avec l'équipe de France, s'il est rétabli, si sa blessure n'est pas grave. Mais combien de sélections avec le maillot bleu compte-t-il?
Quentin. 2.
Il est fort. Il est fort.
Et très spécialité fort. De Marseille. Donc voilà, il est supporter marseillais.
Non, ça se voit.
Légèrement. Et chaque fois qu'il y a des invités qui sont supporters de Marseille, ils posent que des questions sur Marseille. Non, il a remporté 3. Heureusement que.
Bon, il y en a une sur le Barça qui va arriver, Xavier, je le sais.
Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Parce que là, ça va dégainer vite. On reste avec Florent Thauvin. Pouvez-vous me dire avec combien de clubs a-t-il joué en professionnel?
Quentin.
Xavier, 4.
Par contre.
Non. Vous donnez votre réponse, Quentin.
Quentin,
la réponse. 3. Mauvaise réponse.
Xavier, 4.
Ah non, je sais, Quentin, 2.
Mais non, la bonne réponse, c'est 4.
C'est 4. Oh, mais Lille, ça compte pas.
Lille, ça ne compte pas.
J'allais descendre.
Lille ne compte pas. Newcastle,
ah, oui,
Marseille,
Newcastle,
Bastia et Grenoble. Et Grenoble. Et oui, il a été formé à Grenoble. Messieurs, un point pour Xavier. Qui râle quand on pose des questions, quand on pose des questions sur
oui, bon,
Marseille,
là,
mais qui quand même, répond.
Oui. Voilà.
Bon, on va partir de l'univers de Marseille. Et là, je vais vous parler d'un match, enfin, de ce qui s'est passé pendant un match. PSG Sochaux. Pourquoi Adolphe Técu, j'espère que je le dis bien.
PSG Sochaux.
Paris FC, PFC, Sochaux, excusez-moi. C'est fait remarquer ce week-end.
Ah oui, Xavier, pour une touche.
Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin?
Oui, Xavier. C'est-à-dire il a fait une touche qui a, enfin, c'est rentré dans un jeu direct. Voilà, elle était super longue et le mec, il a marqué. Quoi.
Donc, une touche spectaculaire.
Ouais, spectaculaire.
Catapultant le ballon dans la surface adverse en faisant un salto. Alors là, je me tourne vers vous, Cédric, je colle peut-être une...
C'est le cas, parce que j'ai jamais vu ça en DH. Mais...
Est-ce que c'est un geste qui, du moment que les deux pieds sont collés et deux pieds en collés. Dehors de la ligne, ça marche
et deux pieds collés en dehors de la ligne, il faut bien que le ballon parte derrière la nuque. Donc,
en tout cas, sachez que la touche a fini dans les pieds d'un Sochalien.
Voilà.
Donc, c'est encore
ça, je l'ai vu, ça.
Xavier. Et donc, ça fait 4-3 pour l'équipe de Xavier Cédric contre Léo et Quentin.
Est-ce une question?
Il reste combien de questions? Alors là, tu
deux.
Me poses.
Il en reste deux.
Il reste...
Alors, je me suis trompé. Sur
il y a trois partout.
Il en reste trois. Il y a trois partout. Voilà. Je me suis trompé.
Non, il n'y a pas trois partout.
Xavier, j'ai donné deux fois le point. Non, effectivement.
Il y a 3-2.
Oui, non.
Il y a trois partout.
Trois partout.
Non, mais ça, c'est quand l'arbitre est contre nous. C'est incroyable.
Il reste trois questions. Puisque la première question, vous n'avez pas trouvé.
Promis.
Vous n'avez pas trouvé. Alors, si je vous dis 144, messieurs.
144,
c'est un record.
Ah, Quentin.
Cédric.
C'est Quentin.
Ne serait-ce pas le nombre de matchs d'Iker Casillas en Ligue des Champions?
Absolument pas, Cédric.
Le nombre de buts marqués en une saison par un club?
Alors, c'est ça, mais si vous pouvez me donner le club, ce serait pas mal.
Trop compliqué. Pas le club.
C'est pas si...
Quentin. Le PSG.
Et oui, je suis désolé.
Ah, mais c'est j'ai dit que j'étais l'OM tout à l'heure, c'est pour ça que je...
C'est partagé. Le PSG a déjà marqué 144 buts cette saison, toutes compétitions confondues, ce qui constitue évidemment un record pour le club, alors qu'on est, on est qu'à la mi-mars. Cédric, je ne peux pas vous donner le point. Vous m'avez pas donné le club. Le point va donc.
On me donnera un autre point après.
Léo et Quentin. Mais alors là, par contre, Cédric, c'est une question qui va peut-être vous avantager par rapport aux autres. Pourquoi auriez-vous pu arbitrer un national ce week-end? Il s'est passé quelque chose. Cédric Dutour aurait pu arbitrer en national ce week-end.
Xavier, parce qu'un arbitre s'est blessé.
Il est fort. Bravo Xavier. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez l'info?
Ben, je crois que l'arbitre, il s'est blessé et ils ont fait venir le. Comment dire? Il y avait un mec dans les tribunes.
Alors.
Là, et il est rentré. C'est déjà arrivé, ça. Hein.
C'était à Rodez, c'est ça.
Ouais.
Lors du match Chambly-Red Star ce week-end. Et une annonce a été faite dans le stade. Puisque lors de cette rencontre, l'arbitre de touche s'est blessé lors du but du Red Star après avoir heurté un photographe. Vous ne rêvez pas. Il n'y avait aucun arbitre remplaçant qui n'était prévu pour ce cas de figure. Et après l'annonce donc du speaker qui demande au public s'il y avait un arbitre diplômé dans les tribunes pour faire la touche. Le match a pu
C'est le règlement en cas de
mais des fois il rentre même un quatrième arbitre
mais là il n'y avait pas le quatrième. Dixième question, il y a 4 partout, c'est un but en or tout simplement, donc là ça va être simple. Pour donner une réponse, vous me donnez votre prénom. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous ne pouvez plus répondre jusqu'à ce qu'on fasse un tour de table. Donc c'est la dernière question et elle concerne un arbitre puisqu'on reçoit Cédric Dutour qui va prendre sa retraite à la fin de la saison. L'arbitre, hein, pas vous, Cédric. C'est Tony Chaperon, vous l'aurez deviné. Je vous demande de me donner à 50 près combien de cartons a-t-il distribué dans sa carrière jaune et rouge confondus, messieurs.
50 près.
Voilà. Donc vous me donnez votre prénom, vous me donnez un chiffre.
À 50 près, t'as dit.
À 50 près. Il va falloir un peu accélérer.
Le premier qui parle, c'est
Léo. Oui.
100.
100. Donc il a donné 100 cartons dans sa carrière.
Patron. Je me dis, ouais, avec 50 dollars de...
Ouais, non, ça c'est passe pas, pas ça, c'est pas 50. Léo, tu ne pourras répondre que...
Redonner pas, combien, c'est combien, moins de 50 ou plus de 150?
Ah oui, il a dit c'est ça. Pas 100, c'est pas 100, c'est plus que 100. Ouais. C'est alors, beaucoup plus que 100.
Je devance ça.
Voilà. Allez,
attends,
allez,
tu vas
allez-y, allez-y, allez-y,
toi,
allez-y.
Tu vas... allez-y. Xavier, moi j'ai dit... Lui, il attend la foire.
Allez, monsieur, on accélère.
Moi, je dis 550 cartons.
C'est plus.
Ouais, c'est dingue.
Allez, monsieur l'arbitre, à vous l'honneur.
Merci.
Cédric. Cédric. Ouais, non. On n'a pas non plus la nuit. Hein.
Ah oui. Cédric, 700.
C'est plus.
1000.
C'est plus. Allez, messieurs.
Léo.
Vous avez le droit de tout jouer.
Oui. 1200.
C'est plus.
Xavier, 1550.
C'est pas ça, c'est plus. Allez.
Cédric, 1700.
Et 1700 est une bonne réponse.
Bien. C'est la réponse juste.
Bravo.
C'est une bonne réponse. Puisque il a donné 1724 cartons dans sa carrière, 1507 jaunes et 120 rouges. Donc les réponses valables étaient entre 1677 Bravo. Et 1777. Bravo Cédric, encore une victoire.
Il a fait une très grande carrière. Ouais.
Pour Xavier.
Merci.
Et donc c'est les coups, l'équipe de Xavier Cédric qui remporte ce quiz. Merci de nous avoir suivis pour cette 16e émission d'Oxyfoot. Retrouvez l'émission sur le site de la radio occitaniepremière.fr, rubrique podcast, mais aussi sur notre site partenaire footpi.fr. Retrouvez-nous aussi sur le compte Twitter de l'émission @oxyfoot. On se retrouve lundi prochain. Messieurs, j'étais ravi de vous retrouver ce soir. Et je remercie encore Quentin Marais d'avoir assuré ces derniers mois. Merci mon ami. À lundi prochain.
À lundi prochain.